les grands enjeux des accaparements des terres dans le monde, les rôles des multinationales et les besoins de régulation aux différents niveaux. L'année 1910, il y avait un ouvrier agricole qui s'appelait Emiliano Zapata, qui est sorti dans les campagnes mexicaines au cri de la terre pour qui la travaille. Actuellement, un siècle après, et cette cri a été aussi repris par des anarchistes italiens, espagnols, et dans toutes les révolutions des années du siècle, du XXe siècle, toujours un drapeau de revendication a été la distribution de la terre pour qui la travaille. L'Union soviétique, la Chine, le Vietnam, Cuba, même des processus qui n'étaient pas révolutionnaires, qui étaient réformistes, comme le Guatemala de Arbenz, et même dans d'autres endroits comme Taïwan, la Corée au Japon, même les Américains, on avait distribué la terre parmi les paysans pour tenter de casser les pouvoirs des grands propriétaires de ces pays. Nous assistons pas aux réformes agraires, pas aux réformes agraires. Au contraire, nous assistons à un accaparement des terres en Amérique latine, en Asie et en Afrique, par des multinationales, par des fonds d'investissement. Alors aujourd'hui, dans ce titre que je viens d'énoncer, on aura l'occasion d'écouter Michel Merlet, directeur d'Acter, et Mathieu Perdriot, économiste et membre aussi de l'équipe d'Acter, pour analyser ce phénomène. Je donne la parole à Michel Merlet.
Bonsoir à tous. Donc je suis très ému, je vais vous dire, de m'exprimer devant vous ce soir. Hein, et je crois que c'est un honneur d'être dans cet endroit historique pour pouvoir évoquer ces grandes questions autour des accaparements des terres. Le Larzac, c'est un lieu tout à fait important dans la réflexion autour de la gestion et de la gouvernance du foncier. La lutte de Larzac a été une lutte tout à fait symbolique. Hein, et non seulement ça a été une lutte symbolique, mais ça a été aussi un creuset où un certain nombre d'idées se sont développées, se sont discutées, se sont élaborées. Donc je voudrais remercier chaleureusement Pierre Voirin d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre internationale en commémoration des 30 années de la victoire des paysans du Larzac. Sans lui, je pense que cette rencontre n'aurait pas eu lieu, non seulement au niveau de la convocation immédiate, mais également au niveau de tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a 30 ans, ça fait un peu discours de vieux combattant, mais bon, il y a 30 ans, les paysans du Larzac, c'est-à-dire vous, hein, une partie des gens qui sont ici, ont gagné cette lutte contre l'expansion du camp militaire. Alors ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que c'était certes une lutte contre l'expansion militaire, mais en même temps c'était un véritable laboratoire, un projet politique, hein, puisque au programme commun de la gauche, en 81, il y avait la création des offices fonciers et une réforme profonde de la façon de gérer la terre agricole. L'expérience du Larzac qui s'est mise en place par la suite et donc que certains d'entre vous ici connaissent très bien et que vous avez expliqué à un certain nombre d'invités internationaux était, si j'ai bien compris, une façon d'expérimenter ces offices fonciers avec en particulier la Société civile des terres du Larzac qui a été montée sur ce lieu. C'est en même temps une lutte emblématique parce que c'était une lutte qui a d'emblée placé la question de l'accès à la terre, non pas seulement face aux intérêts des 103 paysans du Larzac, mais face à l'intérêt général. C'est-à-dire que c'était une lutte qui a mobilisé beaucoup de gens, d'autres groupes sociaux, d'autres pays, d'autres régions. Et quelque part, ça a été un peu une préfiguration des styles de lutte qu'on voit se développer aujourd'hui. Alors il y a 30 ans, moi j'étais au Nicaragua, je n'étais pas du tout présent sur le Larzac, et j'étais en train de travailler à la mise en place de la réforme agraire dans le régime sandiniste. Et le Nicaragua, à l'époque, c'était un peu le laboratoire de la révolution au niveau mondial. On y a vu passer tout un tas de gens qui ensuite ont occupé des postes plus ou moins importants, hein, et c'était aussi un endroit tout à fait emblématique. Alors, de ces expériences, on avait finalement assez peu de chances de se rencontrer, et par contre, on avait réfléchi chacun de notre côté sur les problèmes que posait la gestion de la terre. Hein, et je dois dire que moi, j'ai fait la connaissance de José Bové, qui était mon premier contact avec quelqu'un qui avait directement été impliqué sur le Larzac, au Brésil, hein, dans une rencontre qui avait été montée par Pierre, comme ces rencontres internationales d'aujourd'hui. Et je vous explique un peu tout ça, parce que tout le processus qu'on a mis en place après avec l'association ACTER, dont vous voyez le sigle ici, est né un peu de cette confrontation entre des expériences extrêmement différentes. Et on s'est rendu compte que si on voulait comprendre ce qui se passait au Nicaragua au niveau de la gestion de la terre, si on voulait comprendre ce qui se passait en France ici au niveau de la gestion du foncier, mais on avait intérêt à faire des recoupements, à regarder ce qui se passait ailleurs. Hein, et c'est un peu comme ça que sont nées les premières rencontres internationales, en particulier les premiers ateliers qu'on a montés au Forum social mondial en 2001, hein, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans. Et dans ces rencontres ont participé tout un tas de personnes qui ont joué un rôle très important dans la formation d'ACTER et dans la formation de ce processus de réflexion. Hein, tout ça pour vous expliquer que ce qu'on va vous commenter aujourd'hui n'est pas une élucubration d'experts qui ont été amené à travailler sur ces questions de façon isolée, mais que c'est le produit d'une réflexion collective dont on va se faire un peu les porte-paroles. Alors, il y a un certain nombre de personnes très importantes qui ont participé à ces différents ateliers. Je voudrais évoquer M. Dao Thet Thuan, le professeur Dao Thet Thuan du Vietnam, hein, qui nous a quittés là au début de l'année. Jacques Chanchol, qui a été le ministre de l'Agriculture d'Allende au Chili. Bon, il y avait également Marcel Mazoyer, il y avait José Bové, hein, qui ont participé à cette réunion. Les gens de la CONTAC qui ont co-organisé cet atelier avec nous. Il y avait également des tas d'autres personnes que je ne mentionnerai pas tous. Hein. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on mettait ensemble des gens qui avaient des expériences extrêmement riches dans différents contextes, on pouvait assez facilement arriver à des conclusions et à des propositions intéressantes. Ceci dit, quelques années après, on s'est rendu compte aussi que la question de la terre, la question du foncier, était très très peu présente au niveau du Forum social mondial. On parlait de tas d'autres choses, mais cette question de l'accès à la terre était pratiquement oubliée. Donc dans une de ces réunions, c'était lors du troisième Forum social mondial, Vicente Garcés, qui était à l'époque président d'une petite ONG espagnole qui s'appelle le SERAI, a proposé de monter un forum mondial sur les questions de réforme agraire, hein, qui était une idée absolument folle à l'époque. Hein. Moi, je vous avoue que je coordonnais ce petit atelier où il y avait 15 personnes. Je connaissais à peine Vicente à l'époque et j'ai trouvé que c'était une proposition tout à fait farfelue. Deux années après, on a réussi à monter un forum mondial sur la question de la réforme agraire à Valencia, auquel ont participé environ 800 délégués de tout un tas de 80 pays du monde, le ministre de la réforme agraire du Brésil, on a eu l'appui de la FAO, et ce forum a remis à l'agenda international la question de l'accès à la terre, hein, la question de la réforme agraire. Deux ans après, un an et demi après, en mars 2006, la FAO a organisé une conférence internationale sur les questions de développement rural et de réforme agraire. Et ça faisait 27 ans que la FAO n'avait pas organisé une conférence internationale sur les questions de réforme agraire. Donc tout ça pour vous dire que finalement, on a pris conscience à ce moment-là que même en étant très petit, en étant des organisations extrêmement peu nombreuses, au niveau du nombre de salariés, avec très peu de moyens, si on était articulé, si on travaillait en association avec les mouvements sociaux, on pouvait réussir à faire bouger un certain nombre de choses. Hein, alors, ce n'est pas parce que la FAO a organisé cette conférence que les choses ont été changées de manière radicale au niveau mondial, mais ça a replacé la question de la terre dans l'agenda mondial. Alors, ACTER, l'association à laquelle on travaille, Mathieu et moi, est née à ce moment-là. Est née d'une volonté d'organiser une réflexion collective pour aller au-delà de ce que l'on pouvait échanger et élaborées comme propositions dans des échanges, même s'ils étaient très riches, comme celui qui avait eu lieu lors du Forum mondial de la réforme agraire. Alors, par la suite, je passe sur les détails, mais on a été amené à travailler sur un certain nombre de thèmes. On a reçu un appui de la Fondation pour le progrès de l'homme, également d'autres appuis divers, et on a petit à petit construit une certaine capacité d'animation d'un réseau avec des gens qui venaient de différents pays. La caractéristique, c'est d'essayer de faire une réflexion nouvelle à partir de choses qui ne sont pas nouvelles, mais simplement en essayant de croiser les regards, d'avoir des approches qui viennent de différentes cultures et de réfléchir ensemble à des problèmes stratégiques qui se posent à tous. Alors, la réflexion sur les accaparements de terre, elle a pris naissance après que l'ONG Grain ait publié cette étude qui mettait l'accent au niveau mondial sur ces phénomènes nouveaux qui étaient en train de se produire. Lors du Forum mondial de réforme agraire à Valencia, Samir Amin avait évoqué ces questions des enclosures au niveau continental, mais personne n'avait vraiment analysé ce qui était en train de se passer, et pour être franc, on n'avait pas vraiment prévu ce qui allait arriver dans les années à venir, ou ce qui était déjà en train de se passer et qu'on n'avait pas réussi à détecter. On était très centré sur les questions de redistribution foncière, de réforme agraire, mais l'évolution des marchés fonciers, ce n'était pas vraiment une préoccupation. Là, une organisation de laquelle ACTER est membre, la Coalition internationale pour l'accès à la terre, nous a lancé un appel à proposition pour élaborer une étude mondiale sur ce qu'eux appelaient les pressions commerciales sur les terres. Et donc, on a répondu à cet appel et on s'est positionné comme une des premières organisations, très petites certes, mais qui réfléchissait sur ces questions d'accaparement de terres. Cela nous a permis très rapidement, au niveau des différents réseaux auxquels on participait, en particulier au niveau d'un comité qui a été établi par la coopération française qui s'appelle le comité foncier et développement, de traiter de ces questions avec les différents chercheurs, les différents membres des ministères des Affaires étrangères, de l'AFD qui travaillaient sur ces questions, et les différents professeurs universitaires également qui travaillaient sur ces questions de foncier en général. Et ce comité, après qu'est sorti, a été publié l'affaire de Dewou à Madagascar, où il apparaissait que le gouvernement de Madagascar avait cédé ou allait céder 1,3 million hectares à une entreprise coréenne pour créer des productions modernes. Cette affaire a beaucoup ému la communauté internationale, et le gouvernement français s'est dit que ce serait important qu'on réussisse à avoir une position officielle sur ces questions. Et à ce moment-là, le comité foncier et développement nous a demandé de coordonner un groupe de travail, un groupe de réflexion interministériel pour élaborer un document qui allait servir de base à la prise de position officielle de la France. Alors, ce que je vais vous raconter vient à la fois de cette réflexion longue ancré dans la durée, donc avec les différents réseaux que j'ai mentionnés, les réseaux APM, les réseaux d'organisations paysannes qui avaient participé à différents mouvements sociaux, et ce groupe d'experts de différents ministères, d'experts universitaires, de membres de la société civile, qui a fourni un cadre critique de réflexion extrêmement riche. On a d'ailleurs été invité à ce titre à participer à une autre réflexion qui était menée par le Centre d'analyse stratégique, qui est une instance qui dépend du cabinet du Premier ministre et qui a eu l'occasion d'inviter tout un tas de grands investisseurs pour expliquer leurs pratiques. Donc ça nous a permis d'avoir aussi la vision des grands investisseurs et de construire sur la base de ces différentes contributions une analyse qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un produit à la fois du réseau ACTER, mais c'est aussi un produit élaboré avec tout un tas d'autres personnes. Alors ce document qu'on a élaboré ici pour le comité technique foncier et développement est disponible pour le moment en français, en anglais, en espagnol et en portugais, et résume quelque part l'essentiel de l'analyse que je vais vous présenter, avec une formulation un petit peu plus soft que ce que je vais vous dire, puisque ce texte a été signé par des gens extrêmement divers, par le président du Conseil supérieur du notariat, par l'expert français qui travaille à la Banque mondiale avec l'équipe de recherche sur le foncier, par les grands universitaires qui travaillent sur ces questions depuis des tas d'années. Hein. Et donc c'est forcément un texte qui va très loin dans les propositions, mais qui a des formulations plus prudentes que ce qu'on peut se permettre dans cette assemblée, par exemple. Voilà. Alors ça a été un peu la phase de croissance. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un mouvement de la société civile qui se mettait en place, en particulier autour de la discussion des directives volontaires de la FAO. Et on a été amené à participer l'année dernière avec le comité Europe, Asie centrale et Proche-Orient à la réflexion sur ces directives volontaires. Et ensuite, on a également été amené, lors du dernier forum social à Dakar, à contribuer à la rédaction d'un appel, l'appel de Dakar, hein, qui appelle à s'opposer d'une façon très claire à tous ces phénomènes. Donc ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est d'une part, quels sont les grands enjeux, comment un peu ça s'organise, tout ça, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que cette affaire est importante et nous concerne tous, hein, et on va essayer, en réponse à la demande qui nous a été faite, d'aborder également la question des multinationales et des régulations du droit international. Je vais trop vite. Bon, donc je vais essayer de ne pas vous faire quelque chose de trop pédagogique, disons, enfin de trop professeur. Je vais seulement vous afficher le plan et ensuite on va essayer de voir un peu comment on développe tout ça. Donc, ces grands enjeux, je commence moi, et ensuite je passerai la parole à Mathieu pour la partie sur les multinationales et les souverainetés et le droit international. On a prévu un certain nombre de diapos pour aller plus loin, hein, si vous voulez poser des questions que je ne vous passe pas pour le moment, hein, mais sur lesquelles on pourra revenir au gré des questions pour essayer d'approfondir un petit peu plus. Alors, la première question... C'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on constate, quels sont ces phénomènes dont on a beaucoup parlé dans la presse, et d'essayer de prendre conscience de leur ampleur et de leur caractère réel. Alors, la première chose, c'est l'ampleur du phénomène. Alors, si vous voulez, pour être très très schématique, il y a à peu près 1,5 milliard d'hectares aujourd'hui dans le monde qui sont cultivés. Les instituts qui travaillent sur l'utilisation des sols estiment qu'une quantité à peu près identique pourrait être cultivée et n'est pas encore cultivée de façon suffisamment intensive, disons, soit est sous forme de pâturage extensif, soit de végétation arborée secondaire, sans même parler des forêts. Hein, il y aurait donc une quantité à peu près identique à la quantité actuellement cultivée qui serait potentiellement cultivable. Alors je vous donne cet ordre de grandeur parce que c'est le cadre dans lequel s'opèrent ces phénomènes d'appropriation, d'accaparement, de prise de contrôle, les mots sont différents suivant les utilisateurs, hein, de terres agricoles. Donc c'est considérable. Deuxième ordre de grandeur, les populations qui sont concernées. Il y a encore, à l'heure actuelle, un humain sur deux qui vit en milieu rural. Ils ne sont pas tous des agriculteurs ou des pasteurs, hein, mais il y a à peu près 3 milliards de personnes, hein, qui sont les habitants de ces zones rurales. Donc là aussi, on parle d'une quantité tout à fait significative d'êtres humains. Hein, ce n'est pas du tout un détail et c'est l'autre élément important de contexte qu'il faut avoir en tête. Alors ces accaparements ou ces prises de contrôle, les médias ont donné des chiffres extrêmement divers, souvent très très importants. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup parlé des accaparements faits par des entreprises internationales, éventuellement même par des pays étrangers qui organisaient la prise de contrôle de grandes superficies agricoles pour subvenir à leurs besoins alimentaires ou à leurs besoins en agrocarburant. Hein ? Il n'empêche que quand on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a également beaucoup de phénomènes d'appropriation massive qui sont opérés par des nationaux, hein, ou par des nationaux en alliance avec des puissances ou des compagnies internationales. Donc ce que la presse a révélé comme ordre de grandeur est en général très inférieur à ce que l'on peut constater au niveau de chacun des pays quand on fait une analyse précise de ce qui est en train de se passer. Ce phénomène est extrêmement important parce que finalement ce milliard et demi de terrains qui sont sous-utilisés ont souvent été considérés beaucoup trop rapidement comme des terrains vides de population. Ce n'est pratiquement jamais le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des populations sur ces terrains, hein, et ces populations voient donc ces droits qu'elles avaient développés et plus ou moins matérialisés de façon plus ou moins formelle sur ces territoires et sur ces ressources directement violés et remis en cause à très très grande échelle. Donc on a un phénomène de violation des droits des populations rurales qui s'opère à très très grande échelle. Alors ça vous donne un petit peu le contexte. Maintenant, un des arguments qu'on nous a constamment opposés, c'était de dire, bon, écoutez, vous êtes bien gentils avec vos histoires d'accaparement, ça fait des siècles que ce phénomène-là se produit, les phénomènes de colonisation, c'était déjà ça, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que vous nous décrivez. Hein, donc c'est important, c'est vrai que s'il n'y a rien de nouveau, pourquoi se préoccuper si ça fait déjà 500 ans qu'on est dans les mêmes processus, bon, ça continue un peu et puis voilà. Bon, le problème c'est que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que certes, ce ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais la vitesse des évolutions est extrêmement différente de celle qu'elle a été historiquement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en citant des chiffres de la dernière étude de la Banque mondiale qui fait référence à des données partielles de la presse et des intentions de prise de contrôle de surface, en l'espace de quelques mois, moins d'un an, cet ordre de grandeur, d'après les estimations de la Banque mondiale, était de l'ordre de 50 millions d'hectares. Hein, si on prend les statistiques d'augmentation des surfaces agricoles au cours des dernières décennies, cette augmentation moyenne par an était de l'ordre de 3 à 4 millions d'hectares. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Hein, y a une accélération considérable de ces processus. Autre chose extrêmement nouvelle, c'est que quand vous organisiez la conquête d'un nouveau continent, bien, vous aviez besoin soit de soumettre les populations par des moyens armés, hein, en faisant éventuellement des accords avec les chefs locaux, hein, soit vous étiez obligé, à ce moment-là, quand vous soumettiez des populations, ça a été le cas en Amérique latine par exemple, vous ne pouviez vous installer que là où il y avait beaucoup de gens. Parce qu'un colonisateur sans force de travail, ça ne sert absolument à rien. Hein, et c'est donc la possibilité de récupérer la force de travail, de faire travailler les gens pour soi, qui était intéressante. En Amérique latine, la question foncière ne s'est pas posée au début. Hein, c'était le contrôle de la main-d'œuvre qui était essentiel. Il fallait pouvoir contrôler les populations indiennes. Hein, et là où il n'y avait pas d'Indiens, où c'était des Indiens sauvages dans les montagnes ou dans les grandes plaines, des chasseurs et des pêcheurs, les Espagnols ne sont pas rentrés, et les Portugais non plus d'ailleurs au tout début. Hein. Quand on n'avait pas la possibilité de soumettre les populations locales, il fallait importer des travailleurs. Toute la traite des esclaves a été basée avec des chiffres phénoménaux, hein, sur ce principe qu'il fallait apporter sa main-d'œuvre quand on n'avait pas la main-d'œuvre sur place. Et enfin, dernière possibilité qui a été mise en œuvre dans le sud du continent latino-américain, en Argentine, au sud du Brésil, vous aviez beaucoup de paysans pauvres qui étaient obligés d'abandonner l'agriculture ou qui mouraient de faim en Europe, vous pouviez organiser leur transfert vers les Amériques et coloniser les pampas du sud du cône sud, hein, avec ces paysans européens. Bon, donc tout ça, c'est compliqué, ça demande du temps, hein, et ça se fait en général par des moyens violents. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? C'est qu'avec les caractéristiques de l'agrobusiness et de la production à grande échelle, eh bien, vous pouvez exploiter de très grandes surfaces avec pratiquement personne. Avec des moyens mécaniques, vous pouvez défricher des milliers d'hectares. En quelques années, vous pouvez mettre en valeur, entre guillemets, hein, des énormes étendues avec pratiquement personne. Ça, c'est un changement absolument radical. Autre changement radical, c'est que vous pouvez en plus faire des accords avec les gouvernements, voire faire des accords avec les populations locales, pour vous installer en toute légalité, hein, soit parce que les gouvernements mettent à votre disposition des milliers d'hectares, soit parce que les populations ont jugé qu'elles avaient plus à gagner à travailler avec vous comme ouvrier agricole dans un premier temps que de continuer à travailler comme pasteur ou comme agriculteur marginaux, la situation qui pouvait exister avant. Donc ça aussi, c'est extrêmement nouveau. Alors, autre élément important de la réflexion, ces phénomènes dont on parle sont des phénomènes qui sont irréversibles. Alors ça, c'est très important, parce que si on pouvait revenir en arrière, si jamais on se trompe, si on fait une erreur, si ensuite, 2 ans après ou 10 ans après, on décide de revenir à la situation antérieure, et si on peut le faire, bon, c'est pas très grave. Hein, le grand problème de ces transformations, c'est que tous les phénomènes qui sont en cours ne peuvent pas, à l'échelle humaine, être remis au point zéro. Hein, alors, au niveau social, c'est le cas. Au niveau culturel, c'est le cas. C'est-à-dire que quand vous détruisez une population paysanne, vous ne pouvez pas, une génération après, recréer cette population paysanne. Tous les savoirs traditionnels sont perdus. Tous les fonctionnements des sociétés sont perdus. Au niveau social, quand vous transformez des paysans en chômeurs ou en personnes qui sont parties en ville, c'est extrêmement difficile de les faire revenir. Hein, c'est donc pas non plus réversible à ce niveau-là. Vous avez une augmentation considérable des inégalités qui s'opèrent. Quand vous voulez revenir en arrière au niveau des inégalités, par exemple, ça voudrait dire faire des réformes agraires. On sait tous que pour faire des réformes agraires, il faut des conditions extrêmement particulières. C'est très difficile d'arriver à avoir les consensus politiques pour pouvoir faire des réformes agraires. Donc là encore, ce n'est pas réversible facilement. Au niveau écologique, quand vous avez coupé la forêt amazonienne ou la forêt du bassin du Congo, vous avez beau décider 10 ans après que vous voulez revenir à la forêt, c'est pas la même forêt qui va repousser, hein, et donc c'est pas du tout non plus réversible au niveau écologique. Au niveau de la biodiversité, c'est la même chose. Au niveau climatique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation des gaz à effet de serre qui s'opère au niveau de la planète, ça peut provoquer des phénomènes d'emballement du réchauffement climatique, et là non plus, c'est pas réversible. Donc ça, c'est quelque chose extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs, et tout ce qui est perdu, l'est perdu pratiquement définitivement à l'échelle humaine. Alors, ça nous amène au niveau des constats, et un dernier point que je voudrais développer, c'est que finalement, cette question des accaparements aux échelles où elles se présentent est une véritable question de choix de société à l'échelle mondiale. Hein, et donc ça, c'est extrêmement important, et la principale conséquence de ces phénomènes, c'est la destruction massive et accélérée de la production paysanne, hein, de la production familiale à petite échelle au niveau de la planète. Hein, cette destruction, elle concerne donc potentiellement la moitié de la population mondiale, elle peut être extrêmement rapide et elle est sans retour possible. Donc il y a un véritable choix qu'il convient de faire entre ces très grandes exploitations à salariés capitalistes, hein, et puis des agricultures paysannes qui pourraient se développer, comme elles l'ont fait dans certaines régions du monde, mais qui n'ont souvent jamais eu vraiment les moyens de se développer. Donc ça, c'est un petit peu les constats et la prise de conscience, si vous voulez, que cette question est un enjeu mondial pour la planète, hein, et c'est quelque chose qui nous concerne tous, qu'on soit ou non directement lié à la production agricole. Alors, je continue à aller assez vite. Ça va au niveau de la traduction ? J'aimerais pas être à votre place, je vous avoue. Alors, tout ça, c'est très bien, hein, mais on se rend compte que pour pouvoir construire une réponse ou construire des propositions, eh bien, on a en face de nous des gens qui ont des discours extrêmement rodés, hein, et on a besoin, quelque part, de démonter ces discours et de démonter ces analyses pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe. Alors c'est le travail qu'on a essayé de faire, que je vais vous présenter encore une fois très très rapidement, avec 4 grands points. Alors le premier point, il a trait à la nature des droits que l'on peut avoir sur la terre et sur les ressources naturelles. Alors, on s'aperçoit que les droits qu'on a sur la terre sont de nature extrêmement différente d'un endroit à un autre. De même que les quantités de terre auxquelles ont accès des producteurs sont extrêmement différentes d'un continent à un autre. Quand on emmène un Chinois au Brésil et qu'on entend, on l'entend, c'est une expérience qu'on a eue avec des voyages organisés par la FPH, quand on l'entend dire à un paysan brésilien qui a 15 hectares, qui est vraiment, il est presque un paysan sans terre, il n'a pas de quoi vivre, 15 hectares en Chine agricole, c'est plus qu'un grand propriétaire terrien, hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc on est avec des contrastes qui sont gigantesques, 0,5 hectares en moyenne de territoire agricole en Chine par producteur, parfois des dizaines, voire des centaines de milliers d'hectares dans les systèmes d'agrobusiness qu'on va trouver soit au Brésil, soit dans les pays d'Europe de l'Est. Donc finalement, ces situations, elles sont également très très différentes en termes de nature de droit. Alors il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que dans toute une partie du monde, la nature des droits formels qui sont reconnus sur la terre sont directement le produit des régimes coloniaux qui ont été imposés. Et ceci encore jusqu'à très très peu d'années. Alors, en quoi est-ce important? C'est important parce que, d'une part, on a des systèmes de propriété, des systèmes de reconnaissance de droits qui ont été transférés depuis les pays du centre vers les pays de la périphérie. Ça a été le cas en Amérique latine, par exemple, où on a exporté notre code civil et on l'a appliqué pratiquement en apparence de manière identique dans les différents pays d'Amérique latine, mais quand on réfléchit un petit peu à la façon dont ça s'est réellement passé, on se rend compte que ce n'est pas si identique que ça. Juste un exemple, sans rentrer dans les détails. En France, en Europe, le droit de propriété est un droit soi-disant absolu, mais qui en fait n'est absolu qu'au début de l'article 544 du Code civil. Et dès la fin de l'article, on considère qu'il est absolu jusqu'au point où interviennent tout un tas de limites qui sont décrétées par les lois, par les règlements et tout un tas de choses qui peuvent être justifiées par l'intérêt général. Donc en fait, cette propriété n'est pas du tout absolue. Autre point très important, les droits de propriété en Europe sont des droits qui sont construits finalement depuis le bas. En France, on n'a jamais un titre de propriété qui a été remis par le roi de France. Alors qu'en Amérique latine, vous avez toujours des droits de propriété qui ont été remis au début par les Espagnols, la couronne d'Espagne ou les cours de Séville, et puis plus tard par l'État. On a l'impression que le droit vient du fait qu'on a reçu un titre. En France, ce n'est pas le cas. Le titre est une reconnaissance d'un État de fait. Et finalement, vous pouvez, en Europe, avec le code civil que nous avons, avoir des droits qui sont reconnus par des mécanismes dits de prescription acquisitive, c'est-à-dire des mécanismes qui font qu'on vous reconnaît un droit de propriété parce que vous avez occupé la terre pendant, en général, plus d'une génération, de manière pacifique et sans avoir aucun problème avec vos voisins et sans que personne ne proteste. Cette disposition de la prescription acquisitive aurait pu s'appliquer en Amérique latine. Très souvent, il a été décrété que sur toutes les terres dites terres de l'État, cette prescription acquisitive ne se pouvait pas s'appliquer. Et donc, on a toujours eu un système de distribution de titres depuis le haut. Alors, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais ça me permet d'arriver à une autre notion qui est celle du domaine de l'État, de la terre nationale, de la tierra nationale en Amérique latine, des domaines de l'État en Afrique. Et ça, c'est un héritage direct de la colonisation. La puissance coloniale avait pris le contrôle de l'État, de l'ensemble des territoires. C'est les bulles papales au début qui attribuent l'ensemble du continent latino-américain à la couronne d'Espagne et à celle du Portugal. Mais il ne s'agissait pas du tout d'un droit de propriété comme celui qu'on entend d'habitude chez nous. C'est-à-dire que le roi d'Espagne n'était pas propriétaire de l'ensemble du continent latino-américain comme vous pouvez l'être de votre ordinateur ou de votre voiture. On utilisait le même mot, mais ce n'était pas du tout les mêmes droits. Alors, c'est souvent ce droit de l'État, de propriété entre guillemets, qui n'est pas une vraie propriété, qui a été transféré aux États nationaux au moment de la décolonisation. Et donc c'est pour ça que l'État de Madagascar s'estime légitime, propriétaire légitime de l'ensemble des terres. Et si les Malgaches qui travaillent depuis des générations sur ces plateaux, sur ces terres, n'ont pas de titre de propriété, l'État malgache peut considérer qu'en toute légalité, il a le droit de céder pour 100 ans des centaines de milliers d'hectares à une entreprise étrangère s'il estime que c'est la meilleure chose qui peut être faite pour le développement de son pays. Donc cette question des droits de propriété, de la nature des droits, elle est extrêmement importante à prendre en compte. Autre chose importante, en France, vous ne pouvez pas vendre des terres agricoles à n'importe qui. Il y a un système de contrôle des marchés fonciers qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui existe. Ces systèmes-là sont complètement absents, par exemple, d'Amérique latine. Donc tout ça pour dire que le droit de propriété, c'est aussi un droit d'usage, c'est aussi un droit de décider ce qu'on peut faire sur un territoire, c'est aussi un droit de transfert de ces droits antérieurs à d'autres personnes. Tous ces droits-là s'expriment de façon très différente suivant les contextes. Premier point important. Donc. Deuxième point important, on parle tout le temps d'investissement. Et tout le monde s'accorde à dire que le monde a besoin de plus d'investissement dans l'agriculture. Très bien. Sauf que ce qu'on appelle investissement foncier, c'est tout sauf de l'investissement. Alors pourquoi ? Ça a été un aspect absolument central de notre réflexion. On s'est rendu compte en écoutant les investisseurs que très souvent, ces investisseurs parfois n'achetaient même pas la terre. L'entreprise Dehou à Madagascar allait avoir une cession, un bail emphytéotique gratuit pour 99 ans sur 1 million d'hectares. Donc ça, c'est un investissement assez léger quand même. Souvent, les autres investisseurs avec qui on a pu discuter nous expliquent qu'ils louent la terre à des prix très très faibles. Les plus gros investisseurs français en Ukraine louent l'hectare des meilleures terres agricoles au monde à 25 euros par an. Donc on a également des investissements extrêmement faibles, voire pas d'investissement du tout dans d'autres cas. Les données sont vérifiées. On a d'autres éléments avec le rapport de la Banque mondiale qu'on ne peut pas accuser de ne servir les intérêts des paysans sans terre contre ceux des investisseurs a priori. Et donc finalement, on se rend compte que c'est autre chose qui se passe. Ce qu'on appelle accaparement des terres n'est pas toujours un accaparement des terres, mais est toujours un accaparement de richesses. Un accaparement de richesses potentielles, éventuellement, quand ces terres ne sont pas encore mises en valeur. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'impôt foncier, parce qu'on a en général une exemption d'impôt pour les gens qui viennent investir. Et donc on leur donne la possibilité de révéler la richesse du sol et d'en tirer tous les profits sans avoir à investir pratiquement rien. Donc cette idée même d'investissement agricole, d'investissement en milieu agricole, est une supercherie. C'est une façon de tromper les gens en donnant l'impression que ces investisseurs vont faire du développement en investissant réellement, alors que finalement, ce qu'ils font, c'est capturer des richesses. Et donc là, dans la réflexion qu'on a menée, on a réintroduit le concept de rente foncière, qui était à l'origine du développement de l'économie politique, un concept absolument fondamental dans les économistes, pour les économistes classiques, pour David Ricardo, ensuite pour les économistes marxistes, et puis même pour les premiers marginalistes, c'était quelque chose d'essentiel, où on reconnaissait qu'il y avait une partie de la richesse qui n'était pas créée par le travail de l'homme et qui pouvait de fait être appropriée par la personne qui travaillait la terre. Et donc c'est cette rente, cette quantité qui n'était pas liée au travail de l'homme que le propriétaire foncier pouvait exiger en paiement, en loyer, à la personne qui travaillait cette terre. Je ne rentre pas beaucoup dans les détails, mais cette notion est essentielle pour revenir sur cette appréhension très trompeuse qu'il y a vraiment des investissements massifs et productifs pour l'ensemble de la société. Alors ça, c'est également quelque chose d'important, parce que ça nous permet de revenir sur la terre. Est-ce que la terre est une marchandise ? Est-ce que la terre n'est pas une marchandise ? Si la terre, de fait, n'a pas du tout été produite pour être vendue, s'il y a une partie de la production qui existait avant même qu'on y fasse quoi que ce soit, on ne peut pas assimiler la terre à une marchandise. Et quelque part, il y a une partie de cette valeur de la terre qui revient, qui fait partie d'un bien commun. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, et c'est quelque chose qui est essentiel pour analyser tous ces processus d'accaparement. Alors nous, on parle d'accaparement de richesse plutôt que d'accaparement de terre, puisque, comme je vous disais, il n'y a pas toujours achat ou prise de contrôle formel du foncier. Alors il y a d'autres rentes, il n'y a pas seulement les rentes foncières. Quand l'Union européenne décide d'incorporer un pourcentage obligatoirement d'agrocarburants dans tous l'essence et le gasoil qui est vendu en Europe, ça fait augmenter les prix de ce genre de produits, ça crée un marché artificiel et ça crée aussi une rente qui est le produit d'une politique agricole des pays du Nord. Tout ça avec peut-être un discours en disant qu'il faut protéger l'environnement et faire des biocarburants, entre guillemets, en fait, ça produit exactement l'effet inverse et ça crée des possibilités et des motivations pour des gens qui veulent faire de l'argent de se mettre à planter soit du jatropha, soit du palmier, de la palme africaine, soit du soja, soit différents produits qui servent de la canne à sucre à produire des agrocarburants. Alors, vous me direz, tout ça c'est très bien, mais finalement, comment est-ce qu'on explique cette ruée sur les terres agricoles et cet intérêt de plus en plus important des capitalistes pour ces types d'activités? Alors là, on a fait un certain nombre de travaux, en particulier en Ukraine, mais aussi dans d'autres endroits, où on a essayé de voir comment se répartissait la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée entre les différents... Alors, c'est très classique comme analyse, entre les différents facteurs de production, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait à la rémunération du capital, qu'est-ce qui allait à la rémunération de la terre, qu'est-ce qui allait à la rémunération du travail. Alors, je passe sur les critiques qu'on peut faire à ce genre d'analyse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Ukraine, par exemple, 80% de la richesse créée sert à rémunérer le capital. C'est-à-dire que pratiquement, on ne paye pas la terre, avec ce montant extrêmement faible de loyer qui est versé à des gens qui ont en principe reçu la terre après une réforme agraire post-socialiste. Cette réforme agraire, elle a été complètement formelle, les gens n'ont absolument pas les moyens de négocier de véritables loyers, et ils sont obligés d'accepter ce que veut bien leur donner l'investisseur, entre guillemets. Et la main-d'œuvre, elle est extrêmement mal payée, d'une part, et extrêmement peu nombreuse. Il y en a de moins en moins. Donc si vous investissez pratiquement rien, parce que vous avez de fait la possibilité d'accéder à la terre quasiment gratuitement, vous pouvez avoir un retour sur investissement qui est extrêmement important, d'autant plus important que vous pouvez contrôler une partie des circuits de commercialisation, avoir des accès sur le marché international privilégié, etc. Donc on a en fait un véritable Eldorado pour les investisseurs financiers qui vient de cette rémunération très inégale entre le capital, la terre et le travail. Et tout le processus qu'on est en train de décrire des accaparements consiste à créer les conditions pour qu'on puisse avoir pratiquement accès à une rémunération maximale du capital sans rémunérer ni la terre ni le travail. Alors ça se passe comment? Ça se passe avec des contrats qui interdisent de faire payer des impôts aux investisseurs sous prétexte qu'ils vont développer le pays. Ça passe avec des mesures extrêmement faibles de protection sociale des travailleurs. Et on a avec tout ça un discours où on a l'impression qu'on développe les choses quand on installe des exploitations de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de soja dans le Mato Grosso au Brésil ou plusieurs dizaines de milliers d'hectares de céréales en Ukraine. On a l'impression qu'on fait du développement alors qu'en fait on fait quelque chose qui est complètement différent. On fait du profit et on crée des conditions pour un profit maximum pour un très très petit nombre de personnes. Alors ce discours idéologique qui confond finalement l'efficacité financière avec l'efficacité économique, il est particulièrement pervers. C'est-à-dire que quand il n'y a pratiquement personne qui fait la différence entre l'intérêt financier de la personne qui investit dans une production de céréales en Ukraine, par exemple, et l'intérêt économique pour l'Ukraine et pour l'ensemble de la population du pays de ce type de production. Vous êtes moitié mort ? Où ça va? Vous me dites, avant de rendre le dernier souffle. Donc, vous voyez, cette question-là, pratiquement personne ne parle de ça. Vous me dites quand je peux reprendre? C'est bon? Pratiquement personne ne fait la différence entre la rentabilité financière et l'intérêt pour la société. Et ça, c'est un énorme problème. Hein, parce qu'on justifie des projets d'investissement sur la base de la rentabilité des grandes entreprises et on ne fait pas du tout, on ne prend pas du tout en compte ni tous les effets induits que ça peut avoir au niveau de l'économie, ni le coût que peut avoir le maintien d'un chômage de plus en plus important dans les pays, hein, ni le coût des expulsions qu'il peut y avoir, ni les destructions du milieu naturel, les pertes de biodiversité, les pertes de sol. Hein, comme il y a énormément de terres. Si on avait très très peu de terres sur lesquelles on peut élargir la production agricole, s'il y avait, je ne sais pas, 200 millions d'hectares au niveau de la planète sur lesquels on pourrait élargir cette production, bon, la question elle serait vite résolue. On ne pourrait pas vraiment utiliser une terre, on serait obligé d'essayer de garantir un minimum de durabilité de la production. Si vous avez la même quantité d'hectares que vous pouvez utiliser que celle qui est en ce moment utilisée, si vous avez beaucoup d'argent, vous seriez bien idiot de vous préoccuper de la production que vous allez avoir dans 10 ans. Hein, si dans 10 ans, vous pouvez de toute façon trouver un autre morceau de terre de quelques centaines de milliers d'hectares à côté, hein, et puis développer vos activités. Donc éventuellement, vous prenez le contrôle de plus grandes surfaces de façon à pouvoir bouger ensuite votre production, mais vous n'avez aucune nécessité de prendre soin de ces ressources quand vous êtes un capitaliste qui a établi des productions de cette nature sur un territoire quelconque. Quand vous êtes un petit paysan, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'épuiser les ressources de votre sol. Si vous avez peut-être la possibilité de vous déplacer toujours plus avant dans la forêt, il est possible que vous soyez amené par des conditions économiques à avoir des systèmes de production qui ne sont pas durables. Hein, si vous avez très peu de moyens d'accès à la terre, très peu de moyens de vendre vos productions, des prix très très peu rémunérateur, mais vous pouvez aussi être amené à épuiser votre sol pour pouvoir survivre. Hein, mais si vous avez accès à des ressources en quantité suffisante, jamais un paysan ne va ruiner son sol parce qu'il aura l'intention d'aller en ruiner un autre un peu plus loin. Hein, c'est pas du tout dans le fonctionnement habituel de l'économie familiale et paysanne. Alors, Ces questions, elles sont extrêmement importantes et elles sont d'autant plus importantes que les effets ne sont pas seulement les effets que souffrent les gens qui sont directement déplacés par ces grandes entreprises. C'est-à-dire que vous avez en même temps des effets à distance qui ont lieu quand vous produisez avec des systèmes de production très extensifs, du blé ou des céréales en Ukraine sur de très très grandes surfaces, avec très très peu de coûts. Eh bien, vous provoquez une baisse tendancielle des coûts sur les marchés mondiaux, hein, et de fait, les gens qui vont être en France ou ailleurs et qui vont produire vont être obligés d'avoir des prix de plus en plus bas, ce qu'on a compensé avec des subventions de plus en plus importantes, de plus en plus mal distribuées, hein, et c'est donc extrêmement compliqué, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que les effets ne se limitent pas à la surface qui est directement affectée par ces nouveaux systèmes d'agrobusiness. Vous avez également des effets qui peuvent être extrêmement importants de l'autre côté de la planète pour divers mécanismes. Alors, il y a un certain nombre de phénomènes qui font des pressions particulières, comme le développement des agrocarburants, par exemple, hein, qui est une des raisons pour lesquelles les prix ont tendance à augmenter au lieu de baisser. Très souvent, ces prix ne se répercutent pas au niveau des producteurs à la base. Et de toute façon, ce développement d'une très très grande agriculture à salariés avec des conditions extrêmement favorables au capital sont destructrices d'agriculture familiale et destructrices de manière pérenne, hein, et pratiquement irréversible à l'échelle humaine. Alors, dernier point au niveau des analyses, c'est que vous avez finalement des pays qui sont souverains. Hein, si le gouvernement de Madagascar souhaite, légitimement élu, souhaite donner 1 million d'hectares à une entreprise. Je cite beaucoup l'exemple de Madagascar. On a quelqu'un qui connaît très très bien Madagascar dans la salle ici, hein, qui pourra éventuellement apporter des précisions. Mais comment est-ce que nous, en tant que Français, on peut dire c'est absolument aberrant de faire ce genre de choses? Quelle légitimité on a, hein, alors que c'est eux qui décident ce qu'ils font sur leur terre, hein. De même, vous avez la plupart des pays africains ont lancé des appels aux investisseurs. Je me souviens d'un appel de la Zambie qui disait j'ai 30 millions d'hectares à mettre à disposition des investisseurs, et ils sont tous en train de se battre pour avoir le plus possible d'investisseurs qui viennent, hein. Donc comment faire en sorte, en tant qu'ancien pays colonial, qu'on puisse dire écoutez, là on a l'impression que ben, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas l'intérêt général. Donc cette question, elle pose véritablement la question des souverainetés nationales face à un problème qui est un problème pour l'ensemble de l'humanité. Et là, je vais laisser Mathieu en parler, et je vais lui laisser également parler de tous les mécanismes qui existent ou qui n'existent pas de régulation, quel type de forme légale on utilise, quel genre de contrat entre les entreprises et les États, et comment tout ça fonctionne ou comment tout ça ne fonctionne pas. Alors, ça, je ne rentre pas là-dessus, je laisserai Mathieu parler de tout ça. Je voudrais aborder très rapidement les propositions que l'on peut faire pour, sur la base de toute cette réflexion. Alors, la première chose qu'on a proposée, qui est sortie de l'ensemble de ces discussions, parce qu'on n'a pas proposé nous-mêmes grand-chose, hein, ça a été de construire toute la réponse à ces questions sur la base de deux principes. Le premier, c'est de reconnaître en premier lieu les droits des populations qui sont en ce moment établies sur les territoires. Alors reconnaître les droits, ça ne veut pas dire forcément laisser les choses en l'état, mais ça veut dire au moins les indemniser si on les met à la porte, et les indemniser pas seulement en fonction de ce qu'ils produisent, mais en fonction de ce qu'ils pourraient produire potentiellement dans quelques années si jamais on leur donnait les moyens de se développer. C'est pas simple. Hein? Donc ça implique aussi de reconnaître différents types de droits. C'est-à-dire de pas seulement reconnaître le droit positif ou le droit établi par l'État, mais également les droits qui sont en pratique au niveau des communautés. Hein? Ça implique une vision de pluralisme juridique. Alors le pluralisme juridique, c'est une façon de reconnaître que le droit ne se construit pas seulement à partir des assemblées législatives, hein, mais se construit aussi par la pratique tous les jours, hein, et qu'il y a tout un droit qui est aussi légitime, voire parfois beaucoup plus légitime, qui est construit par, on appelle ça les coutumes dans certains endroits, mais ça se passe pareil chez nous, hein, qui est construit par les pratiques. Alors ce qui est important dans cette question, c'est que finalement, si on ne reconnaît pas la prédominance du droit de l'État, hein, on est obligé de reconnaître que ce sont les rapports de force qui font que certains types de droits s'appliquent et certains types de droits ne s'appliquent pas. Donc on a dans la salle là aussi des experts en construction de droits depuis la base, hein, donc je laisserai s'exprimer là-dessus. Ça c'est extrêmement important parce que ça permet de relativiser cette question de la légalité, hein, et de mettre au premier plan la question des luttes sociales, la question des mouvements sociaux, hein, comme étant la façon de faire reconnaître réellement les droits qui ont été construits à la base, hein, en disant que ces droits n'ont pas de raison d'être considérés comme inférieurs aux droits qui ont été établis par les anciennes puissances coloniales et après récupérés par les États souverains. Alors, deuxième point très important au niveau des propositions, c'est celui de la reconnaissance de l'existence d'une part de bien commun, hein, dans tous les territoires ruraux et dans toutes les ressources naturelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fortement revendiqué par les organisations de la Via Campesina, par exemple, avec toute la référence à la Pachamama. On peut y faire des références de type idéologique, de type religieux. Hein, on exposait tout à l'heure dans la discussion que c'était très souvent la forme qu'avait prise cette appréhension de cette réalité bien, bien concrète. Hein. On peut aussi très bien en faire une lecture économique, hein, et pas idéologique. Tout ça, de toute façon, peu importe la lecture qu'on en fait, c'est important de reconnaître qu'on ne peut pas s'approprier de manière privative une partie d'écorce terrestre, hein, ou une partie du sous-sol, une partie de ressources, comme on peut le faire avec un bien marchand lambda. Alors, autre chose importante, donc si on veut lutter contre l'appropriation privative des rentes, hein, de la richesse naturelle, donc des terres parfois, pas forcément des terres, mais des droits d'usage dans d'autres cas, comme c'est le cas par exemple des grands producteurs en Ukraine, hein, il faut essayer de lutter contre l'existence de ces rentes différentielles qui sont capturées par les investisseurs. On avait eu l'occasion, à titre d'anecdote, d'écouter M. Combastet, qui est un des présidents ou un des gérants du plus gros fonds de pension qui intervient en Amérique latine, hein, en particulier en Uruguay, et qui nous avait expliqué comment il achetait des latifundias, des terres extensives des pâturages, hein, et comment, au bout de quelques années, il plantait du soja sur ces terres et il revendait ces terres à prix d'or, Il nous avait très bien expliqué qu'un producteur agricole moderne pouvait difficilement espérer avoir plus de 6 ou 7% de rentabilité annuelle, que son fonds d'investissement lui demandait 25 à 30%, et que la seule manière de pouvoir obtenir ces 25 à 30%, c'était d'acheter de la terre, qui étaient des pâturages utilisés par des latifundières uruguayens de manière très extensive, de les mettre en culture et ensuite de les revendre quelques années après, après avoir démontré qu'on pouvait y faire du soja. Bon, certes, il y avait une certaine prise de risque, on pourrait rémunérer cette prise de risque, mais de là à pouvoir rémunérer à 30% son capital, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, quand vous regardez un petit peu, vous n'avez pas d'impôt foncier en Uruguay, hein, et en général, c'est l'absence d'impôt qui permet cette privatisation des rentes, hein, d'une façon absolument généralisée. Donc une des propositions qu'on fait, c'est de proposer des impôts fonciers un peu partout pour resocialiser, pour récupérer ces richesses et faire en sorte qu'elles redeviennent du bien commun, hein, par le biais de cet impôt foncier. Alors on a même été dans la proposition avec le groupe de réflexion de la coopération française jusqu'à proposer un impôt foncier mondial, qui était plus une provocation qu'autre chose, hein, en argumentant du fait que la France avait déjà une grande expérience en promotion d'impôts mondiaux, et en disant qu'au moins cette proposition avait un intérêt, c'était de mettre en discussion la question de la terre comme bien commun. C'est-à-dire que si on estime que le concert des nations, l'humanité dans son ensemble, a la possibilité par un mécanisme qui reste complètement inventé et qui est très peu facile à mettre en place, hein, de mettre en place un impôt sur les terres, ça veut dire que quelque part on est tous un peu propriétaires de l'Amazonie brésilienne, ça c'est pour provoquer un petit peu nos amis brésiliens ici, hein, et on a beau n'avoir absolument rien à voir avec le Brésil, avec l'Amazonie, ce qui se passe en Amazonie va nous concerner aussi un jour ou l'autre, hein, et donc c'était une manière de générer cette réflexion au niveau des biens communs à l'échelle planétaire. Alors l'autre question, c'est la lutte contre les rentes qui sont générées par les politiques publiques. Alors là aussi, c'est tout un débat, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais l'OMC pourrait très bien s'occuper d'éviter les perversions qui sont créées par la création de rentes avec les politiques publiques qui créent ce type de situation à partir de rien. Hein, donc on pourrait très bien imaginer que les instances de régulation du commerce mondial servent également à réguler ces rentes qui sont créées et qui bénéficient finalement à un nombre de personnes ou d'entreprises extrêmement limitées. Dernier niveau de proposition, celle de la mise en place d'un droit contraignant au-dessus des souverainetés nationales. Et donc là encore, je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il approfondisse un peu cette question. Alors bien évidemment, toutes ces propositions sont des propositions qui sont difficiles à atteindre de manière immédiate. Donc ce qui nous paraît intéressant, c'est le démontage de l'idéologie, hein, de pouvoir mettre en avant le fait que les problèmes de la planète ne vont pas se résoudre avec le concept de responsabilité sociale des entreprises si on considère que cette responsabilité n'est pas une responsabilité devant les tribunaux, hein, mais un engagement à faire du bien et à faire de la charité, comme c'est la vision qui est dominante, et donc une opération volontaire de la part de ces entreprises de pouvoir redistribuer éventuellement un petit peu de leurs profits en faisant des écoles, en faisant des hôpitaux. Hein. Donc ça, on n'arrivera jamais à résoudre les questions de la planète avec ce type de mécanisme. Donc il y a d'énormes défis qui se posent là. Et bien évidemment, il est difficile à un pays ou à un groupe social quelconque de pouvoir tout de suite faire des propositions qui auront un impact. Par contre, il y a des cheminements qui sont possibles. Le cheminement au travers des directives volontaires de la FAO peut être un cheminement intéressant qui fait avancer les choses, qui fait changer les rapports de force. Hein, il y a également la possibilité au niveau d'un ensemble territorial comme l'Europe, hein, de faire également changer les choses progressivement. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas partir du principe que la maximisation des profits ou des richesses créées dans l'ensemble des pays va se traduire par une utilisation optimale des ressources au niveau mondial. Hein, il y a de telles différences d'accès aux ressources entre les régions, de telles différences de disponibilité brute de ressources dans les différents continents et les différents pays que ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a tout un travail qui vise à construire progressivement les conditions pour aller plus loin. Hein, de toute façon évidente, l'idée du grand soir pour résoudre tous ces problèmes ne tient pas. Hein, et il va falloir progressivement faire en sorte que les choses évoluent en espérant qu'on arrivera à avoir des résultats efficaces avant qu'il ne soit trop tard. Je passe la parole à Mathieu.
Alors, comme l'a dit Michel, on propose maintenant de s'attarder à une catégorie d'accapareurs particulière. Parmi celles qu'a déjà évoquées Michel, au début de son intervention, il a parlé des États. Il y a des États qui poursuivent des stratégies de sécurisation de leurs approvisionnements alimentaires et qui donc trouvent le moyen de prendre le contrôle sur des grandes surfaces de terres arables dans des pays qui en contiennent plus que dans le leur. Il y a des investisseurs nationaux, on parle d'investisseurs domestiques, et puis il y a ces grands groupes transnationaux, et évidemment on se pose la question de savoir quelle est la part de ces firmes multinationales dans les processus d'accaparement, et là la réponse est clairement, on ne sait pas, on ne peut pas le dire. La Banque mondiale, dans une étude qu'elle a réalisée, dont a parlé Michel tout à l'heure récemment, sur ces phénomènes d'accaparement, pense avoir repéré que ce sont majoritairement les acteurs domestiques nationaux qui sont au premier plan de ces phénomènes d'accaparement. Cela après avoir regardé les choses un peu dans le détail dans quelques pays, et puis en ayant épluché des articles de presse, de la presse mondiale, qui rendaient compte de cas d'accaparement. Mais aussitôt après avoir dit ça, les chercheurs de la Banque mondiale disent on est absolument incapable de savoir qui sont les détenteurs des capitaux des entreprises nationales, les entreprises d'acteurs domestiques. On ne peut donc pas déterminer dans quelle mesure des compagnies transnationales ne sont pas quelque part aussi propriétaires ou influentes dans les décisions de ces entreprises. Cela pourquoi ? Parce que la composition du capital des entreprises, c'est souvent très opaque. Et puis par ailleurs, pour ce qui est des accords qui impliquent directement les entreprises étrangères, ces accords-là eux-mêmes sont très discrètement passés avec les gouvernements. Les informations sont très difficilement accessibles, y compris pour des gens comme les chercheurs de la Banque mondiale qui ont des relais dans ces pays-là, des très informés. Alors la question de la composition du capital des entreprises qui prennent le contrôle de terre, elle est importante pour comprendre ce que c'est qu'une transnationale. C'est la définition d'une firme transnationale, c'est le fait pour une entreprise étrangère de détenir des parts dans une entreprise située ailleurs, à l'étranger. C'est un ensemble donc d'entreprises qui sont liées par ces phénomènes de capitaux, de capitalisation. Ça s'étend même, cette idée d'ensemble transnational, à des firmes qui sont les entreprises qui sont liées par des accords contractuels sans impliquer directement une dimension de propriété mais par des engagements réciproques d'approvisionnement divers. Alors évidemment ça pose tout de suite la question des modalités de cet investissement. Comment est-ce qu'une entreprise étrangère peut investir des capitaux dans une entreprise existante ou peut créer de toute pièce une nouvelle entreprise dans un pays étranger, eh bien, cette procédure, cette manière de... Bien sûr, là, on est en train de parler de création d'entreprises qui ont pour objet de mettre éventuellement en exploitation de grandes surfaces de terre. Il y a dans ces créations d'entreprises une appropriation, un contrat qui va déboucher sur la maîtrise de territoire. Comment s'opèrent ces transactions, entre guillemets ? Elle relève de cadres divers, très précis. Il y a ce qu'on appelle au niveau national les codes d'investissement. Ce sont des lois, elles ont valeur de loi nationale, et elles indiquent très précisément quelles vont être les conditions fiscales appliquées aux investissements réalisés par les entreprises étrangères, les conditions relatives aux droits du travail, les conditions sociales, et les conditions, j'ai évoqué donc la fiscalité, le droit du travail, et il y a il me manque un point là qui m'échappe tout d'un coup. Oui, il y a éventuellement des clauses relatives aux droits de l'environnement, mais enfin, c'est pas pour rien que je l'oublie, c'est que elles sont dans le cadre de ces codes d'investissement très légères, ces considérations. Une autre source de droit qui s'applique à ces investissements sont les accords bilatéraux. Ce sont des accords internationaux passés entre États et qui vont aménager, indiquer quelles vont être les conditions à appliquer pour les investissements qui seront réalisés par les entreprises d'un État parti de cet accord bilatéral dans l'autre État parti à cet accord bilatéral. Ici, sont aménagées essentiellement des garanties de l'investissement. De manière très générale, il y a ce qu'on appelle par exemple la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire que l'État qui sera hôte de l'investissement, en ayant ratifié cet accord bilatéral, ne pourra pas aménager des conditions moins favorables à un nouvel investissement, des conditions plus défavorables que les conditions les plus favorables qu'il permet déjà à d'autres investisseurs. Il y a une autre clause qui s'appelle la clause du traitement national, qui est un peu du même ordre. Il prévoit qu'un investisseur étranger ne pourra pas bénéficier de conditions plus défavorables que les meilleures conditions accordées à un national, une entreprise nationale. Puis il y a une troisième clause qui est importante dans cet encadrement des investissements, c'est la clause d'expropriation sans compensation. Cette clause-là fait que un investissement réalisé dans le cadre de ces accords bilatéraux, si les conditions de réalisation de la rentabilité de l'investissement, les conditions d'exploitation de l'entreprise évoluent et tendent vers une réduction du bénéfice réalisé annuellement par l'entreprise, eh bien, l'entreprise pourra réclamer des compensations financière très directement à l'État dont il considérera qu'il est revenu sur ses engagements en matière de conditions de rentabilité. Et puis il y a un niveau encore plus précis d'encadrement de ces investissements, c'est le contrat d'investissement qui lui est le contrat passé entre l'investisseur, l'entité économique privée et l'État où il opère son investissement. Et là on rentre dans des considérations ayant trait au prix de la terre qui va lui être fait, surface, au droit d'accès à l'eau et des conditions fiscales spécifiques qui peuvent être aménagées pour son investissement. Tout ce droit-là, il est garanti par une instance judiciaire. On parle d'instance d'arbitrage international. C'est d'ailleurs un des aspects de ces accords bilatéraux d'investissement, c'est qu'ils indiquent très précisément vers quelle instance d'arbitrage pourra se tourner l'investisseur s'il considère que l'État ne lui a pas garanti les conditions sur lesquelles il s'était engagé. On peut citer un exemple de ce genre d'instance, c'est le Centre international de règlement des différends. C'est une instance qui est adossée au groupe Banque mondiale. Et cette instance-là est désignée par une multitude d'accords bilatéraux qui ont trait à l'investissement comme le juge pour traiter des différends qui touchent éventuellement à un investissement. Et quand on regarde les avis rendus par le CIRDI, ce centre de règlement des différends liés à l'investissement, on se rend compte qu'ils sont systématiquement pris en faveur de l'investisseur. On peut donner par exemple un exemple très concret. Il y a une firme nord-américaine qui a obtenu du Costa Rica un territoire pour mettre en place un projet touristique sur une surface donnée. Et un jour, le Costa Rica, qui entre-temps avait passé des accords internationaux touchant à l'environnement, a décidé de reprendre une part du territoire qui avait été alloué dans le cadre de l'accord passé avec cette entreprise pour créer un parc naturel. L'entreprise nord-américaine a saisi le CIRDI. La procédure a duré quelque chose comme 10 années et le CIRDI a statué en faveur du versement de compensation pour le bénéfice non perçu lié au manque de l'espace exploitable par l'entreprise de tourisme, et l'a condamné à verser des montants faramineux avec un mode de calcul des bénéfices non perçus qui faisait augmenter les choses de manière très très importante au fil des années. Eh bien, l'État ne se dérobe pas à la décision du CIRDI. L'État costaricien a versé des montants faramineux. On a des cas très nombreux similaires en Argentine. L'Argentine est sous le coup d'un nombre d'avis du CIRDI très très important et potentiellement menacé de verser des millions, des centaines de millions de dollars à des entreprises variées, européennes, américaines. Pourquoi est-ce que les États s'exécutent? Je l'ai dit, le CIRDI est adossé au groupe Banque mondiale, et la Banque mondiale est bailleur de fonds publics d'aide au développement. Il y a là des jeux d'influence, des conditions de rapport de force qui font que ce juge-là est un juge dur. Sa sentence relève de l'obligation externe. Alors maintenant, que se passe-t-il si on prend le point de vue des populations qui sont éventuellement victimes de violations de droits individuels ou droits collectifs du fait de la mise en œuvre de grands projets par ces grandes entreprises? En gros, quelle est la responsabilité juridique de ces groupes multinationaux au regard des droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des groupes, autochtones? Eh bien, la réponse, elle est nulle, cette responsabilité juridique des groupes multinationaux. L'ensemble d'entités qui forment un ensemble multinational n'a aucune personnalité juridique au regard du droit international. Il n'existe pas pour le droit international. Il n'y a pas donc de recours possible pour poursuivre une entreprise de ce type-là en violation des droits fondamentaux. Qu'en est-il de la responsabilité juridique de la filiale dans un pays donné, la seule entité délimitée au niveau local, cette entreprise qui met en œuvre le projet d'exploitation au niveau local, qu'en est-il de sa responsabilité au regard du droit, de ses droits humains? En principe, elle est jugée responsable au regard du droit interne, du droit du pays où elle met en œuvre cette exploitation. Dans les faits, on constate que la saisine des instances judiciaires des pays les plus concernés par ces investissements est très compliquée, que les administrations judiciaires, les tribunaux manquent de moyens pour mettre en œuvre des enquêtes, poursuivre, etc. Et on sait aussi que la corruption est présente, plus ou moins selon les pays, selon les régions. Et que donc, ces voies de recours-là ne sont pas des leviers très très effectifs. D'autant que l'engagement de procédure dans ce type de démarche est très coûteux et n'est pas à la portée de toutes les personnes qui sont potentiellement en situation de violation de leurs droits. Maintenant, si on regarde du côté des sociétés mères de ces groupes multinationaux, ces entités qui, elles, gèrent les flux de capitaux, de produits, etc., entre ces filiales, et qui sont basées dans des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, qu'en est-il de leur responsabilité à elles au regard de ces droits fondamentaux? Ça pose la question de leur responsabilité quant aux actes des filiales. Et on peut dire clairement que dans la plupart des pays, cette responsabilité, on pourrait dire indirecte, est très faible, très légère, pour ne pas dire que le droit interne de ces États aménage l'irresponsabilité juridique des sociétés mères au regard des agissements de leurs filiales. Alors, je vais rapidement m'orienter vers les pistes d'amélioration des cadres juridiques qu'on pourrait souhaiter. Il y a une piste qui consisterait à introduire dans les accords bilatéraux qui ne parlent que d'investissement et que de garantie de l'investissement, des considérations pour les droits fondamentaux, les droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme, celui qui a été dicté dans les grands pactes relatifs aux droits sociaux, économiques et culturels, ou aux droits civils et politiques, et donc faire en sorte que l'arbitre international du différent lié à l'investissement devienne aussi le garant du respect de ses droits fondamentaux. Ça signifie réformer 2700 accords bilatéraux d'investissement qui ont été passés depuis les années 80-90, et espérer ensuite que les instances d'arbitrage internationales veulent bien jouer ce rôle de garant de ces droits-là. Une autre approche consisterait à attribuer la personnalité juridique aux groupes multinationales ou aux sociétés mères pour les rendre, la personnalité juridique internationale, pardon, pour les rendre comptables du respect des droits fondamentaux édictés par les pactes internationaux. Cette piste-là est avancée par certaines organisations, mais elle ne serait qu'une partie du chemin. Pourquoi ? Parce que le droit international des droits de l'homme, stipulé par ces pactes, n'est pas justiciable. C'est-à-dire que les droits tels que le droit à l'alimentation, le droit à un habitat décent, le droit d'accès aux ressources naturelles, ne relèvent d'aucune instance judiciaire obligatoire qui pourrait imposer sanctions, réparations à un acteur étatique ou une entreprise dans l'hypothèse où on obtiendrait qu'elles soient qualifiées, qu'elles aient le statut de personnalité juridique internationale. Aucune instance ne peut, à l'heure actuelle, s'imposer à ces entités-là. Cet état de fait, il est dû au sacro-saint respect de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que les États qui ont signé ces accords relatifs aux droits fondamentaux se sont bien gardés d'ajouter en annexe de ces pactes une clause de compétence obligatoire d'instances comme la Cour internationale de justice, par exemple. Se sont bien gardés de créer les conditions qu'une entité supranationale vienne leur dire quoi faire ou les sanctionner s'ils se trouvaient être en violation de ces accords-là. Cette analyse-là, elle nous amène donc à questionner le bien fondé de trouver les solutions dans la réaffirmation de la souveraineté nationale. Il faut s'interroger sur le fait qu'il y a déjà 30 ans, les pays du tiers-monde ont obtenu la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations unies de leur souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette reconnaissance, on l'a vu au fil des 30 dernières années, n'a en rien empêché le pillage des ressources par des entités plus souveraines que d'autres. Pour paraphraser Coluche, on peut dire que dans ce régime de respect des souverainetés au plan international, il y en a qui sont plus souverains que d'autres. Si on n'a pas les moyens de protéger une zone de pêche, si on n'a pas les moyens de promouvoir une politique agricole fondée sur le renforcement des capacités des producteurs familiaux, si on n'a pas les moyens de faire front à des bailleurs internationaux dont on est dépendant et qui imposent, eux, leur vue en termes d'ouverture à l'investissement, ce concept de souveraineté nationale est un vain mot. Il ne change rien à la question des rapports de force les plus déséquilibrés. Alors, les groupes de travail avec lesquels on a réfléchi sur tout ça arrivent à cette idée donc que le souhaitable, ce serait une loi, quelque chose de l'ordre de la loi, des règles communes sur des principes fondamentaux, essentiels, pas surtout, il faut surtout pas tomber dans un système législatif qui viserait à tout réguler et à tout régir pour tout le monde à cette échelle-là, mais sur quelques règles de base, ça semble essentiel. Des règles communes donc, mais d'application obligatoire, c'est-à-dire dont la violation relève de sanctions auxquelles on ne puisse pas, et de réparations auxquelles on ne puisse pas échapper. Si on observe une société nationale, on constate que le droit, celui qui régule nos relations d'individu à individu, nos rapports aux ressources, il est constitué sur une forme d'obligation exogène. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, si l'entrée en conflit avec un tiers doit déboucher sur une résolution par un juge, eh bien, on va parvenir à sortir du conflit et à sortir de la violation des droits de l'un des deux parties prenantes grâce à cette forme d'obligation. C'est donc pour la recherche de telles formes de régulation qu'on plaide pour créer les conditions d'un monde qui ne serait pas régi par ces seuls rapports de force ou qui permettrait, lorsqu'ils se mettent en place, de tenter leur rééquilibrage. C'est donc ce qu'on identifie comme une nécessité, la correction de ce monde, de cette gouvernance internationale qui aujourd'hui constitue un droit extrêmement dur en faveur quasi exclusive et essentielle des investisseurs et donc des entités privées, et donc qui garantit et permet l'appropriation des richesses, des ressources par des individus, des groupes, aux dépens de la collectivité, en regard d'un droit sur les droits fondamentaux, les grandes valeurs, qui lui relèvent de l'incantation à l'heure actuelle. Alors, évidemment, ça peut relever de l'utopie, et vous allez répondre immédiatement que pour inverser cet état de fait, cet état de régulation actuel, il faut commencer par inverser le rapport de force. C'est évidemment là tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à ce que les citoyennetés s'emparent de ce type d'horizon, de ce type de... On le soumet au débat, on ne prétend pas nécessairement détenir la vérité sur ce qui serait souhaitable de faire. Il faut évidemment en débattre avec d'autres qui ont peut-être d'autres vues. On sait qu'il y a encore beaucoup à échanger avec des visions plus souverainistes. Mais en tout cas, il semble essentiel que les citoyennetés, que ça devienne un enjeu politique, c'est-à-dire que les personnes qui ont la main sur ces décisions, sur ces cadres juridiques nationaux et internationaux, identifient comme un enjeu électoral, là où les processus permettent de procéder à des votes, et à d'autres, comme des menaces de conflits et de soulèvements sociaux, faire apparaître comme une menace pour eux de ne pas s'orienter vers des pistes comme celle-ci. Et ça passe évidemment par la mise en débat de ces solutions, de ces pistes, de ces problèmes, de ces lacunes de mode d'organisation autour des ressources, au plan national comme au plan international, et à diffuser pour que chacun se sente fondé, chaque citoyen se sente fondé à se prononcer sur ces sujets-là et à souhaiter qu'il en soit autrement, pour que les décideurs politiques fasse opérer les changements absolument indispensables et rapidement pour ne pas aller dans le mur, comme on constate qu'aujourd'hui on se dirige à grande vitesse. Et je reviendrai sur un élément qu'a donné Michel tout à l'heure, qui justifie à notre sens cette recherche de règles communes à tous, cette recherche d'une expression d'une souveraineté à l'échelle de l'humanité. C'est cette dimension de propriété commune de la terre et des ressources naturelles. Il l'a mentionné à travers des exemples d'impact qu'un usage en un lieu donné de la terre peut avoir à l'autre bout du monde, à travers par exemple le réchauffement climatique, lorsqu'on coupe 10 000 hectares de forêt en Amazonie, les retombées sont vécues en Scandinavie par exemple. Mais évidemment aussi que les enjeux de faim, de pauvreté sont, nous concernent absolument tous. Donc c'est cette dimension de propriété commune qui, d'après nous, justifie qu'on recherche des règles de ce type. Voilà, je m'arrête là.